Ignorez-vous, frères, car je parle à gens qui entendent ce que c'est que la loi a autorité sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Car la femme qui est soumise à un mari est liée à son mari par la loi tant qu'il vit. Mais si le mari meurt, elle est déliée de la loi du mari. Ainsi donc, le mari étant vivant, elle sera appelée adultère si elle est à un autre homme. Mais si le mari meurt, elle est libre de la loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en étant à un autre homme. C'est pourquoi, mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort à la loi par le corps du Christ, pour être à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Car quand nous étions dans la chair, les passions des péchés, lesquelles sont par la loi, agissaient dans nos membres pour porter du fruit pour la mort. Mais maintenant nous avons été déliés de la loi, étant morts dans ce en quoi nous étions tenus, en sorte que nous servions en nouveauté d'esprit et non pas en vieillesse de l'être. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Qu'ainsi n'advienne. Mais si je n'eusse pas connu le péché, si ce n'eût été par la loi, car je n'eusse pas eu conscience de la convoitise, si la loi nous dit « tu ne convoiteras point ». Mais le péché, ayant trouvé une occasion par le commandement, a produit en moi toutes les convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Or moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais le commandement étant venu, le péché a repris vie, et moi je mourus. Et le commandement qui était pour la vie a été trouvé lui-même pour moi pour la mort. Car le péché, ayant trouvé une occasion par le commandement, me séduisit et par lui me tua. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, est juste, est bon. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort? Qu'ainsi n'advienne. Mais le péché, afin qu'il parût péché, m'a causé la mort par ce qui est bon, afin que le péché devint, par le commandement, excessivement pécheur. Car nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car ce que je fais, je ne le reconnais pas, car ce n'est pas ce que je veux que je fais, mais ce que je hais, je le pratique. Or, si c'est ce que je ne veux pas que je pratique, j'approuve la loi, reconnaissant qu'elle est bonne. Or maintenant, ce n'est plus moi qui fais cela, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien. Car le vouloir est avec moi, mais accomplir le bien, cela je ne le trouve pas. Car le bien que je veux, je ne le pratique pas, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, moi, je le pratique, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi, qui veut pratiquer le bien, que le mal est avec moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui existe dans mes membres. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, de l'entendement, je sers la loi de Dieu, mais de la chair, la loi du péché. Chers frères et sœurs, hier soir, nous avons marqué l'importante division de l'Épître aux Romains au verset 11 du chapitre 5. La première partie de cet Épître étant consacrée à démontrer la perdition totale et sans remède de l'homme, car tous ont péché. Personne n'attend à la gloire de Dieu. Dans cet état où l'homme se trouve, ayant accompli des actes, ayant eu des pensées qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, il a besoin d'une justice pour paraître devant Dieu. Et cette justice est enseignée dans cette première partie comme venant de Dieu et non de l'homme, par la foi, et la foi seule en Jésus-Christ. Dans cette première partie, l'opposition est donc essentiellement entre la foi d'un côté et les œuvres de l'autre. Depuis le verset 12 du chapitre 5, nous n'avons plus la question des péchés commis, mais de notre nature en Adam qui est le péché. Et c'est pour cela que depuis cette partie, nous avons une autre position. Adam comme chef d'une race déchue et Christ comme chef d'une race renouvelée, d'où ces deux natures, la vieille en Adam et la nouvelle en Christ, qui se contrarient, qui se combattent et qui créent des conflits dans le croyant. Dans le chapitre 6, nous avons l'affranchissement de cette puissance du péché qui agit en nous, mais cette délivrance qui ne peut venir que de Dieu est complétée par le chapitre 7 qui met en avant la question de la loi. Et je vais tenter de montrer pourquoi la faute examine après le chapitre 6, affranchissement du péché, dans le chapitre 7, l'affranchissement de la loi. Parce que le chrétien qui sait que ses péchés sont pardonnés par le sang de Christ, mais qui éprouve dans sa marche des difficultés pour marcher à la gloire de Dieu, aurait tendance de se placer sous la loi. Qu'est-ce que la loi? Ici, il s'agit de la loi morale que Dieu a donnée à Moïse sur le Sinaï. C'est ça la loi. Or, entre le don de la loi et la création de l'homme, il s'est écoulé de nombreuses années où l'homme était sans loi. Puis, depuis Moïse jusqu'à Christ, l'homme, tout au moins dans le peuple juif, a disposé d'une loi, qui était une loi donnée par Dieu. Cette loi était bonne, elle était excellente même, mais c'était une loi qui, donnée par Dieu au peuple, était inaccomplissable par le peuple. En voulons-nous la preuve? Lorsque Moïse a passé 40 jours et 40 nuits sur le Sinaï, montagne que personne ne pouvait toucher à cause de la sainteté de Dieu, il est descendu, ayant cette loi reçue de Dieu entre les mains, après ce long séjour sur la montagne, et il a vu dans la plaine le veau d'or dressé,
Aaron conduisant même les fils d'Israël vers l'idolâtrie, entendant les danses et entendant cette parole terrible adressée au veau d'or, c'est ici ton Dieu, ô Israël. Alors Moïse, plein d'une sainte colère, a brisé les tables et il a dû remonter une seconde fois sur la montagne pour y recevoir une nouvelle fois la loi. Mais la seconde loi reçue par Moïse sur le Sinaï, après son second séjour, était une loi mêlée de grâce. Pourquoi disons-nous cela? Parce que si Dieu s'en était tenu à la loi qu'il avait donnée la première fois à Moïse, il aurait anéanti le peuple dans les plaines du Sinaï, parce que ce peuple avait commis une action que Dieu ne pouvait supporter, qui était l'idolâtrie. Ce peuple aurait dû être exterminé à ce moment-là, si la loi avait eu tout son effet. Mais c'est là qu'on voit ce que Dieu est pour l'homme. Il a mêlé cette loi avec de la grâce. Et c'est ainsi que, depuis l'épisode du veau d'or jusqu'à la fin de l'histoire du peuple de Dieu, Dieu n'a pas agi sur un principe de loi uniquement, mais il a agi toujours avec la grâce qui était là pour pardonner à l'homme. Alors, dans notre chapitre, ce qui s'oppose à la loi, c'est la grâce. Nous verrons que plus loin, nous aurons l'opposition de la chair et de l'esprit. Et ces oppositions, qui sont propres à Paul, détermine les différentes parties de l'épée. Nous avons dit que dans la première partie, c'était la foi et les œuvres. Au début de la seconde partie, c'était Adam et Christ. Au chapitre 6, c'est le vieil homme et le nouvel homme. Au chapitre 7, c'est la loi et la grâce. Si le roi, selon le cœur de l'Éternel, David, avait été jugé selon la loi, il aurait dû être mis à mort immédiatement lorsqu'il a convoité la femme de son prochain, la femme d'Uri, qu'il a fait mettre à mort Uri dans des conditions que nous connaissons, et qu'ensuite il a pris Bathsheba pour sa propre femme, consommant le fait qu'il était meurtrier par le fait qu'il était adultère. Eh bien, Dieu, qu'a-t-il fait? Est-ce qu'il a agi selon le principe de la loi rigoureuse qui aurait précipité immédiatement dans la mort David? Non, il a pardonné selon le principe de la grâce. Et alors, David exprime la béatitude de l'homme dont les péchés sont pardonnés dans le psaume 32. Dans cet admirable psaume où il dit « Bienheureux l'homme dont Dieu ne compte pas la transgression et dont le péché est couvert. » Nous citions hier soir une parole d'Augustin, il y en a une autre qui m'est revenue. Lorsque couvert de ses péchés et de sa vie de débauche, il a rencontré le Seigneur. Il s'est écrié « Trop tard, je t'ai connu. » Trop tard, je t'ai aimé. Nous comprenons ce qu'est pour l'homme cette rencontre qui le délivre de ses péchés et de sa culpabilité devant Dieu. Trop tard, je t'ai connu. Trop tard, je t'ai aimé. Nous aimerions que tous les jeunes et les enfants qui sont dans cette salle ici ne doivent pas s'écrier après avoir parcouru quelques années loin du Seigneur. Comme Augustin, trop tard je t'ai connu, trop tard je t'ai aimé. Parce que pour aimer et pour connaître le Seigneur, nous ne disposons que d'aujourd'hui. C'est Thérèse d'Avila qui pouvait dire dans son cantique, mon chant d'aujourd'hui, ma vie est un instant, une ombre passagère, ma vie est un instant qui m'échappe et qui fuit. Ô mon Dieu, tu le sais, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Et à la suite de ce cantique où elle montrait que nous ne disposions que de l'instant présent, elle pouvait parler de la gloire en disant « Alors je chanterai sur la harpe des anges l'éternel aujourd'hui. » Trop tard, je t'ai connu, trop tard, je t'ai aimé, a pu dire un serviteur de Dieu. Eh bien, c'est une parole solennelle, parce que les années passées loin du Seigneur, ce sont des années perdues et qu'on aimerait parfois effacer de sa vie. Mais Dieu est plein de grâce. Il est plein de grâce et aux différents stades de notre existence, il nous rencontre et il nous aide. Mais nous serions tentés dans nos difficultés comme chrétiens dans la marche sur la terre de vouloir nous soumettre à un commandement comme le peuple d'Israël l'avait reçu. Et nous savons que dans la chrétienté, nous avons nombre de bien-aimés enfants de Dieu qui se replacent sous le principe de la loi. C'est-à-dire qui veulent observer au plus près de leur conscience le décalogue, les 10 commandements, et d'autres commandements formels donnés par l'Écriture. Et s'ils sont sincères et qu'ils vivent près du Seigneur, ils s'aperçoivent très vite d'une chose, c'est qu'ils ne peuvent pas accomplir ces commandements. Ils en sont incapables, ils n'en ont pas la force. Et c'est pour cela que Paul va montrer, dans le premier paragraphe de notre chapitre, il y a un mari qui est la loi et qu'il y a un second mari qui est Christ. C'est le premier paragraphe. Dans le deuxième paragraphe, il va montrer que ce premier mari duquel nous devons être déliés avait son utilité et c'est la connaissance du péché par la loi. Et dans le troisième paragraphe, l'apôtre Paul va montrer l'état d'une âme qui progresse péniblement sur cette terre à travers les difficultés, qui a une conscience du bien et du mal éclairée par l'Esprit Saint, une volonté de faire le bien animée par l'Esprit Saint, mais qui est incapable de le pratiquer. Et ça, c'est une découverte terrible. Il est plus facile de découvrir que nous sommes pécheurs que de découvrir que nous sommes incapables de ne pas être pécheurs. Il y a une très grande différence, chers frères et sœurs, entre le fait de découvrir que nous sommes des pécheurs perdus parce que nous sommes constitués tels en Adam et que tout ce qui vient de nous est le mal que Dieu est. Il est plus facile de constater cela que de constater qu'une fois que nos péchés ont été pardonnés, nous sommes incapables de ne pas pécher. Et il faut que nous soyons amenés dans nos vies de chrétiens à cette expérience douloureuse que non seulement nous sommes pécheurs, mais que nous sommes incapables par nous-mêmes de faire le bien. Oh, je sais. Nous en entendons des propres justes, dans la chrétienté comme ailleurs. Je n'ai ni tué, ni volé, je suis un homme honorable, j'ai élevé ma famille et j'ai... On connaît cela. Il n'en demeure pas moins que le chrétien éclairé par l'Esprit Saint sait que non seulement il a offensé Dieu par ses propres péchés, mais il sait encore que sa nature fondamentale est pécheresse, c'est le péché en lui, et il sait encore qu'il est incapable par lui-même de pratiquer le bien. C'est une découverte difficile. Et nous allons reprendre, chers frères et sœurs, ces 3 points de ce chapitre. Premièrement, il faut être délivré de la loi. Pourquoi faut-il être délivré de la loi ? Ce n'est pas une plaisanterie que, comme chrétien, de se placer sous la loi. Parce que se produit-il? Si un croyant peu éclairé se replace sous la loi, il s'aperçoit très vite qu'il n'accomplit pas la loi. Alors, qu'est-ce qui se produit? Il sera puni selon la loi. Et le châtiment que la loi donne à celui qui la transgresse, nous l'avons dit il y a un instant, est un châtiment terrible. Donc, pour le chrétien, il s'agit d'être délivré de cette loi. Est-ce que la loi en elle-même est mauvaise? Mais non, elle est bonne. Elle est excellente, la loi. Elle vient de Dieu. Mais c'est nous qui sommes incapables de la pratiquer. C'est nous qui n'avons pas en nous l'énergie pour pratiquer cette loi. Et si nous ne la pratiquons pas, ce commandement qui est saint et qui est juste et bon devient pour nous la mort parce que nous méritons la mort. Parce que nous n'avons pas accompli le commandement. Et c'est cela une chose excellente qui vient de Dieu, qui descend de Dieu par le ministère de Moïse, qui devient pour nous une occasion de mort. Alors nous devons être délivrés de cette loi et ne plus être sous la loi, mais sous la grâce. Nous devons, si on reprend l'image, être délivrés du premier mari qui est la loi pour être un second mari qui est Christ. Examinons cette image brièvement. Paul prend un exemple très clair dans l'organisation de notre société civile. Dans notre société civile, un homme marié, s'il a une femme, cette femme ne peut pas être à un autre homme. Nous comprenons cela. Si une femme étant mariée se donne à un autre homme, elle est adultère, c'est-à-dire qu'elle a corrompu, qu'elle a gâté le mariage. Elle a rompu le lien conjugal par son inconduite, puisqu'elle a appartenu à un premier homme qui a été son mari et à un second homme qui, voudrait-elle, puisse être aussi son mari. Or, Paul dit ceci, pour qu'une femme qui a été mariée une fois puisse être un autre homme que son premier mari, il n'y a qu'une solution, une seule, c'est que le premier mari meure. Si le premier mari meurt, la femme peut se donner à un autre homme sans être adultère. Paul n'envisage pas dans cette image le problème du mariage et de la rupture du lien conjugal par le divorce. Parce qu'il y a des cas, nous le connaissons par l'évangile selon Matthieu, dans le chapitre 5 et le chapitre 19, où le lien conjugal peut être rompu dans des conditions extrêmement spéciales. Mais Paul n'envisage pas ici le problème doctrinal du divorce et du mariage. Ce n'est pas son but. Son but, c'est de montrer qu'une femme mariée, elle se doit à son premier mari. Et que si une femme mariée se donne à un autre homme, elle est adultère. Alors, dans l'image, qui est la femme? C'est nous-mêmes. Qui est le mari? C'est la loi. Le premier mari, c'est la loi. Qui est le second mari? C'est Christ. Mais c'est là où il y a une précieuse pensée. Dans l'image, c'est le mari qui meurt, ce qui permet à la femme de se remarier, tandis que dans la pratique, ce n'est pas la loi qui meurt, c'est nous qui devons mourir à la loi. C'est une pensée profonde et qui exige une certaine attention de notre part pour la comprendre. Dans l'image, je le répète, le premier mari, c'est la loi. Le second mari, c'est Christ, et la femme qui a été deux fois mariée, c'est nous. Mais dans la pratique, ce n'est pas la loi qui meurt, parce que la loi de Dieu est sainte, le commandement est juste et bon, et ceux qui ont péché sous la loi seront condamnés selon la loi. Mais c'est nous qui devons mourir à la loi. C'est-à-dire que nous ne devons plus servir en vieillesse de l'être, mais dans la puissance de l'Esprit. Et tous les chrétiens, tous ceux qui sont ici, grands et petits, s'ils se mettent sous la loi pour servir le Seigneur, ça n'ira pas longtemps que non seulement ils transgresseront la loi, mais ils mériteront les punitions que la loi prévoit pour ceux qui l'ont transgressé. Nous devons absolument être délivrés de ce joug de la loi que nous n'avons pas la puissance de respecter, pour ne pas encourir les châtiments prévus par cette loi. Nous devons être délivrés du premier mari pour être au second mari qui est Christ. Il y a deux façons de pécher. Il y a ceux qui ont péché sans loi. Et il y a ceux qui ont péché avec une loi. Est-ce que Adam a péché sans loi? Non. Adam a péché avec une loi. C'était une loi rudimentaire, mais c'était une loi. Quand Dieu lui a dit, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin, vous n'y toucherez pas, c'était une loi, c'était un commandement formel. C'est pour cela que cette forme de péché, quand l'homme transgresse un commandement formel, sous la plume de l'apôtre, cela prend le nom de transgression, la transgression d'Adam, ou cela prend le nom de faute. Il faut que la faute abonde pour que le pardon abonde. L'expression technique employée par l'apôtre pour désigner cette forme du péché, qui consiste à passer outre un commandement formel, cette forme du péché, c'est la transgression ou la faute. Est-ce que ceux qui ont péché sans loi, entre Adam et Moïse, ils n'avaient pas de loi, sauf quelques personnes qui ont reçu un commandement formel de Dieu, qui était loi. Mais est-ce que ceux qui ont péché sans loi, depuis Adam et Moïse, ont commis un péché plus grave ou moins grave que ceux qui ont péché sous la loi? Eh bien, nous répondons tout de suite, la responsabilité de ceux qui pêchent sans loi est beaucoup moins grave que la responsabilité de ceux qui pêchent avec une loi. Parce que celui qui pêche sans loi, il ne sait pas quel est le châtiment qu'il va encourir s'il transgresse la loi. Mais celui qui pêche avec une loi, c'est très grave parce qu'après, il y a la sentence de celui qui désobéit à la loi. Prenons le cas d'Adam. Au jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'est terrible comme sentence. Il a transgressé, il est mort moralement lorsqu'il a été chassé du jardin d'Éden, et il est mort physiquement plus tard comme sceau sur la mort morale dans laquelle il a été plongé parce qu'il a été séparé de Dieu. On sait qu'on a tordu ce verset pour nous faire dire que l'homme n'avait pas une âme immortelle et que quand il était dit « au jour où vous en mangerez, vous mourrez », cela signifie « quand vous aurez mangé du fruit défendu, eh bien, votre âme cessera d'exister ». Ce n'est absolument pas le sens du passage. Du reste, il suffit de lire ces premiers chapitres de la Genèse tranquillement pour savoir que la sentence de Dieu sur la transgression d'Adam est la suivante. La mort est envisagée dans l'Écriture sous deux angles. Elle est envisagée d'abord sous l'angle moral, et ensuite elle est envisagée sous l'angle physique. Être mort, pour l'Écriture, cela signifie être séparé de Dieu. Ne plus avoir nos sources de vie en Dieu. C'est cela être mort. Quand vous étiez mort dans vos fautes et dans vos péchés. Pour Adam et Ève, chassés du paradis perdu, voyant l'ange du chérubin flamboyer à l'entrée d'Éden, ils étaient morts. Et au jour où ils en ont mangé, ils sont morts. La mort physique les atteint plus tard, la mort physique n'étant que le sceau matériel de la mort morale produite par le péché de l'homme. Ainsi donc, celui qui pêche avec loi est plus gravement responsable que celui qui pêche sans loi. Mais c'est toujours le péché. Alors nous avons besoin d'être délivrés de ce premier mari. Non plus être asservi à un commandement que nous sommes incapables de respecter. Mais nous avons besoin d'avoir une vie et une énergie nouvelle en nous pour marcher selon la puissance de la grâce et pour plaire au Seigneur. Et c'est pour cela qu'on aimerait tant, mais cela un frère spirituel ne le dira pas, qu'on donne des petites recettes, n'est-ce pas, pour la vie chrétienne pratique. Combien cela serait plus facile qu'on nous fasse enfin une liste de ce qui est permis et ce qui est défendu. On aurait une petite liste qu'on respecterait ou qu'on ne respecterait pas. Inutile de dire qu'on ne la respecterait pas, parce qu'il suffit qu'on donne à l'homme une loi pour qu'il la transgresse. Mais enfin, on aurait une petite liste où on mettrait à gauche ce qui est permis et à droite ce qui est défendu. On aimerait bien cela, ça nous tirerait d'affaire. Mais Dieu ne veut pas cela. Il veut que nous marchions selon la puissance de sa grâce et que de cas en cas, nous apprenions, comme il le dit au chapitre 12, à discerner la volonté de Dieu, laquelle est sainte, agréable, parfaite. Et c'est un exercice pour la marche. Dois-je aller ici? Dois-je faire ceci? C'est un exercice personnel du croyant pour discerner ce qui est agréable au Seigneur. La loi a eu un effet mauvais sur l'homme, non pas parce qu'elle était mauvaise elle-même, mais parce que l'homme était mauvais. Et permettez-moi une image pour faire comprendre ce qui est arrivé avec la loi. Vous avez un artisan qui travaille sur le bois. Il fait de très beaux objets, très bien finis, très bien achevés avec ce bois. Mais il a besoin de choisir son bois. Il prendra le bois qui convient, l'essence qui convient. Il choisira la partie de l'arbre s'il veut faire un objet très soigné, qui est belle, qui est propre pour son travail. Si vous donnez à l'artisan le plus habile qui soit du bois pourri, allez lui demander de vous faire un objet de valeur. Inutile. C'est la même chose pour la loi. Dans notre image, la loi est l'artisan et nous, nous sommes le bois. Or, ce n'est pas parce que la loi était mauvaise que nous péchons. C'est parce que c'est nous qui sommes mauvais que nous péchons. Et parce que, comme l'artisan qui n'a pas du bon bois ne peut pas faire du bon travail, de même la loi qui n'avait que nous pour que nous la respections, elle n'a pas pu nous faire marcher à la gloire de Dieu. Et ce qu'il y a de plus grave, c'est que cette loi, plutôt que de nous faire marcher à la gloire de Dieu, elle a excité en nous le péché. Et c'est bien ce qui s'est produit. Est-il besoin de dire que si l'on ne dit rien à un enfant, qu'il y a un bocal plein de confiture auquel il ne doit pas toucher dans l'armoire, si l'enfant ne le sait pas, il n'y pensera pas, allez lui dire, il y a telle et telle chose que tu ne toucheras pas dans l'armoire. N'ait pas besoin d'attendre longtemps pour qu'il mette son nez là-dedans et puis pour qu'il transgresse l'ordonnée. On mettrait ici une coupe placée verticalement, une coupe opaque. Eh bien, peu de personnes dans cette salle seraient très intriguées par ce qu'il y a dans la coupe. Prenez la coupe, renversez-la, posez-la sur la table et dites, il est interdit de savoir ce qu'il y a dans cette coupe. Ça n'irait pas long qu'on verrait des ombres tourner autour de la table puis tâcher de soulever la coupe pour voir ce qu'il y a dessous. Ça n'irait pas long. Si je donne ces deux exemples, c'est pour montrer que la loi, plutôt que de nous faire marcher à la gloire de Dieu, excite en nous le péché. Et parce qu'on ne nous dit pas faire ça, eh bien on le fait justement. C'est quand même terrible notre condition. Alors il faut être délivré de la loi. Parce que la loi excite en nous notre mauvaise nature pour accomplir des choses répréhensibles, et parce que la loi, lorsque nous avons péché, nous condamne. Et la condamnation est sévère. Alors nous avons besoin d'être déliés de l'obligation du premier mari pour être un autre mari qui est Christ ressuscité. Une vie de ressuscité. Dans la puissance de Christ ressuscité. L'apôtre dit dans le passage que nous avons lu, quand nous étions dans la chair. Nous expliquerons ces expressions au chapitre 8, parce qu'il y a deux états du chrétien. Quand nous étions dans la chair, et quand la chair est en nous. Quand nous étions dans la chair, nous désigne des croyants.
On a voulu nous faire croire que ce chapitre 7 ne parlait pas de croyants mais d'incrédules. Il est clair pour l'esprit non prévenu qui lit ce chapitre qu'il s'agit de croyants qui éprouvent des difficultés dans leur vie chrétienne. Ça, cela est clair. Du reste, ça commence ainsi. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui entendent ce que c'est que la loi. Paul parle à des chrétiens. Il s'agit de croyants. Eh bien, ces croyants doivent être délivrés de la loi pour marcher à la gloire de Dieu. Et je dirais ceci avant d'aborder le second paragraphe. Quand nous étions dans la chair, désigne un état d'un croyant qui est encore sous la puissance du péché en lui, tandis que quand la chair est en nous, c'est l'état du chrétien jusqu'à sa mort. Il n'y a rien à faire. La chair et le péché comme puissance nous accompagneront jusqu'à la tombe. C'est ainsi et ça ne sera pas autrement. Nous aurons toujours en nous, et cela est grave, pour bien des motifs. Je me permettrai de citer un seul exemple. Que nous ayons cette puissance du péché en nous, cela est grave parce que même le chrétien le plus spirituel qui doit s'occuper du mal, et cela est très sérieux pour les frères qui s'occupent de l'administration dans l'Assemblée, il trouve en eux une réponse secrète et mauvaise à prendre un intérêt qui n'est pas selon Dieu au péché d'autrui. Parce que nous sommes pécheurs fondamentalement. Le Seigneur ne le sait pas. Il y avait dans la nature pure et sainte de Christ une répulsion pour le mal, automatiquement à cause de sa nature sainte. Tandis que nous, il y a même chez le chrétien le plus spirituel une attirance secrète et mauvaise pour le mal. Et aussi, moins on s'occupera du mal, mieux cela vaudra. Mais malheureusement, pour notre nature adamique, plus on s'en occupe, plus on trouve cela amusant ou intéressant. C'est comme ça que nous sommes. Consultez, chers frères et sœurs, votre propre expérience. N'est-ce pas profondément vrai que nous avons en nous la prime qui fait que nous nous intéressons beaucoup plus au mal qu'au bien. Et dans l'administration de l'Assemblée, s'il y a du mal, nous ne parlons pas du mal moral, mais nous parlons du mal qui peut être produit par les querelles, la question des querelles entre frères. Eh bien, nous devons être sur nos gardes, parce que nous avons en nous tout ce qu'il faut pour nous joindre au mal qui s'est déjà manifesté. Tout ce qu'il faut. Nous avons à prendre garde, nous avons en nous ce qui est prêt à déshonorer le Seigneur. Alors, quand nous étions dans la chair, désigne un état du chrétien non affranchi, tandis que quand la chair est en nous, désigne un état du chrétien qui peut être affranchi, mais qui a en lui cette puissance du mal jusqu'à la mort. Nous laissons de côté le premier paragraphe qui nous parle de la délivrance de la loi pour arriver au second qui nous parle alors de l'utilité de la loi. À quoi sert la loi, dit l'apôtre Paul? À quoi sert-elle? Puisque ce qui était bon pour Dieu est devenu pour moi mauvais, puisque ce qui était bon pour Dieu m'entraîne vers la mort. À quoi a-t-elle servi? Chers frères et sœurs, si vous voyez un maçon qui construit un mur, je reprends une image très connue, pour que son mur soit bien droit, même s'il a l'œil exercé, il a besoin d'un instrument qu'on appelle le fil à plomb. Or, ce fil à plomb, qui monte sur le mur, s'incline dans telle ou telle direction, ce fil à plomb, c'est la loi. C'est elle qui nous a manifesté le péché. Sans la loi, nous avions une conscience vague, générale du péché. Avec la loi, le péché est devenu excessivement pécheur. C'est-à-dire que ce que notre œil même exercé discerne dans le mur qui commence à enfler avant de crever. Depuis la plante placée exactement dans la verticale, manifeste beaucoup plus d'une façon beaucoup plus rare. De même, nos péchés, dont nous aurions eu une conscience vague par ce qu'on appelle la conscience naturelle, dont Paul parle dans les premiers chapitres, sont devenus, avec le filaton de la loi, quelque chose d'excessivement grave aux yeux de Dieu. Il peut voir le péché. Et alors maintenant, nous allons voir où vit la difficulté de la loi, dans ce deuxième paragraphe. Je n'ai ni tué ni volé. Voilà un raisonnement qu'on entend souvent. Tant mieux. Est-ce que cela suffit à prouver que nous sommes de braves gens? Il faut s'entendre sur le mot brave. Parce que on peut n'avoir ni tué ni volé, ni même menti. On peut, je devrais dire, il est nécessaire qu'il soit manifesté au fond de nos cœurs une profusion de convoitises mauvaises qui viennent de ces cœurs naturellement mauvais et qui sont déjà des péchés. On demande est-ce que le fait de convoiter mais de ne pas donner suite à la convoitise est un péché. C'est sûr que c'est un péché. Christ n'a jamais convoité. Et nous pensons, si je puis m'exprimer ainsi, notre tour à convoiter. C'est pour cela que le dixième commandement, le dernier article du Décalogue, est le plus terrible, parce que ce n'est pas « tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas », mais « tu ne convoiteras pas ». Alors celui-là, ce commandement, nous sommes pris là, il n'y a plus de discussion. On veut bien admettre qu'on n'a pas tué, qu'on n'a pas volé, qu'on est d'honorables gens. Mais la convoitise que Dieu lit au fond de nos cœurs, cette convoitise qui commence au lever du jour et qui même encore trouble nos songes la nuit, elle habite au fond de nos cœurs et nous transgressons ce saint commandement, tu ne convoiteras pas, tous les jours et même plusieurs fois par jour. Voilà où nous en sommes. Si bien que cette loi, qui devait être pour nous une source de vie, selon ce qu'il est dit, fais ceci et tu vivras, est devenue pour nous une source de mort, parce que journellement et plusieurs fois par jour, nous convoitons alors que cela est formellement interdit. Il y a un proverbe latin qui dit ceci, c'est dans la queue que se trouve le venin. Eh bien, c'est bien juste, parce que dans le scorpion, nous connaissons tous ce petit animal. Enfin, nous le connaissons de nom, puisqu'il ne vit pas sous nos climats, mais dans les climats très chauds. Avec sa queue qui repasse par-dessus la tête, et qui est chargée de venin, et qui pique, et qui décharge un venin tel que celui qui en est atteint meurt, ou en tout cas est gravement atteint. Eh bien, dans la loi, c'est comme dans le scorpion. C'est dans la queue de la loi, dans le dixième commandement que gît la condamnation de l'homme en Adam sans main. Qui n'a pas convoité dans cette salle? Qui ne se lève? Tous ont convoité. Depuis le petit enfant qui a convoité peut-être un jouet d'un enfant plus aisé que lui. Depuis la tendre enfance quand un enfant désire l'objet interdit. Et qu'est-ce que la convoitise? La convoitise, c'est le mouvement de nos cœurs naturels vers l'acte interdit. Et ce mouvement de nos cœurs naturels vers l'acte interdit est un péché. Parce que si le péché ne s'accomplit pas, eh bien c'est à la grâce de Dieu que nous le devons, car nous sommes tous dans cette salle des assassins et des meurtriers en puissance et des adultères. Il ne faut pas que nous nous fassions d'illusions.
Et cela, chers frères et sœurs, doit animer nos cœurs quand nous avons à nous occuper d'un frère ou d'une sœur en chute. Nous devons savoir que nous sommes capables, quant à nous-mêmes, de faire tout aussi mal que ce frère ou cette sœur, et même plus. Et cela crée les dispositions de la grâce. Et l'on s'approche de celui qui est en chute, non pas en juge, mais avec affection et miséricorde, parce qu'on sait qu'on est capable d'en faire autant ou même davantage. Et si nous ne l'avons pas fait, c'est parce que la grâce de Dieu nous a gardés. Gardons-nous, chers frères et sœurs, nous avons perdu cette indication fondamentale de l'Écriture, que lorsque l'on s'approche d'un frère en chute, on doit avoir le sentiment nous-mêmes que nous serions tout aussi capables de lui que faire le mal, et que par conséquent, dans nos cœurs, doit coexister deux sentiments, la haine du mal que notre nouvelle nature nous donne, et la miséricorde et la grâce qui doivent nous caractériser quand nous nous approchons du pécheur en faute. C'est ce que le Seigneur a manifesté. Parce que la loi, avec cet article terrible « Tu ne convoiteras pas », illustre ce que le Seigneur dit. Quand dans l'Évangile il dit « Celui qui a convoité une femme a déjà commis adultère avec elle. » Est-ce à dire que la convoitise et que l'adultère accompli ont la même importance et la même gravité aux yeux de Dieu? Bien sûr que non. Ce n'est pas ce que le Seigneur a voulu dire. Ce que le Seigneur a voulu dire, c'est que ceux qui se drapent dans leur propre justice et qui peuvent dire « Je n'ai jamais commis adultère », ils ont en eux tout ce qu'il faut pour être des adultères. C'est ça que le Seigneur a voulu dire. Si bien que la loi, chers frères et sœurs, quand un homme, pécheur en Adam, veut la manier contre son prochain, c'est une arme dangereuse. Et nous allons le voir en illustrant, parce que le Seigneur a dit dans le chapitre 8 de l'Évangile de Jean, c'est comme si l'épée n'avait pas de manche, mais que c'était une épée avec deux extrémités effilées. Et quand nous, dans notre propre justice, nous voulons nous servir de la loi contre notre prochain, le prochain n'a qu'à repousser la lame et nous pénètre jusqu'au front, parce que nous ne valons pas mieux que lui fondamentalement. Quand les pharisiens sont venus vers le Seigneur avec la femme qu'ils avaient surprise, ayant commis adultère, et qu'ils ont mis le Seigneur à l'épreuve, ils ont dit, on va voir ce qui se passe. Parce que, si le Seigneur accomplit la loi, il doit dire que cette femme soit lapidée aux portes de la ville. C'était la punition de l'adultère selon la loi. Mais si le Seigneur fait accomplir la loi et qu'il fait lapider la femme, comment peut-il se présenter comme le sauveur du monde, l'homme humble et débonnaire? Et puis si d'un autre côté le Seigneur pardonne à la femme en disant « ce péché n'est pas grave, pardonnons-lui », alors on dira « voilà, c'est un homme qui transgresse la loi ». Mais le Seigneur était le Fils de Dieu. Et alors que nous aurions été terriblement embarrassés, parce que notre réponse aurait été nécessairement fausse, quelle a été celle du Seigneur? C'est là où il a montré que la loi était une épée avec deux lames et sans manches, si je puis m'exprimer ainsi. Parce qu'il a dit, vous voulez manier l'épée de la loi contre cette femme adultère, et vous verrez que cette propre épée se retourne contre vous. Celui qui est sans péché, qu'il jette la première pierre. Voilà ce qu'il fallait dire. Mais seul le Seigneur pouvait le dire. Alors, celui qui est sans péché, qu'il jette la première pierre, et le Seigneur a attendu un bon moment, en silence. Puis il a vu que tous les accusateurs de cette femme s'en allaient un à un, silencieusement. Puis quand il a été seul avec la femme, et lui, il a pu pardonner ce grave péché et lui dire, va, dorénavant, ne pêche plus. Mais parce que c'était le Fils de Dieu. Tous ces pharisiens qui l'accusaient d'avoir commis adultère, ils avaient en eux tout ce qu'il fallait pour être des adultères. Et c'est une découverte humiliante, chers frères et sœurs, qui que nous soyons dans ce local. Nous n'avons pas besoin de nous poser beaucoup de questions quand nous sommes en face d'un homme. Parce que la parole nous dit ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et comme le Seigneur ne se fiait pas à l'homme parce qu'il savait ce qui était dans l'homme, et il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage de l'homme, nous, avec la parole de Dieu, nous savons que quand, à nous-mêmes, nous lisons dans nos cœurs et dans le cœur de notre prochain, il y a toutes les convoitises et toutes les possibilités de transgresser les commandements de Dieu les plus positifs. Et si nous ne les transgressons pas, nous avons cette convoitise qui agit. Tout ceci n'est pas très gai sur notre situation. Et alors maintenant, nous abordons le troisième paragraphe. Chers frères et sœurs, le troisième paragraphe nous présente l'état d'une âme, un état d'une âme qui souffre. Et nous aimerions tant que les âmes qui n'ont pas connu la puissance de la libération traversent même cette crise. Et il ne faut pas vouloir l'éviter. Parce que nos cœurs naturels aimeraient ne pas traverser la crise. Mais Dieu veut que nous la connaissions. Cette crise, elle consiste en ceci. J'ai le péché en moi. Ce péché agit en moi. Je suis incapable d'observer les cinq commandements de Dieu. Je les transgresse constamment. Et puis je voudrais faire le bien. Et je ne peux pas. Alors c'est un aveu d'impuissance. Parce que notez le bien. Il faut ici préciser la position de l'apôtre Paul dans ce dernier paragraphe. Il s'agit d'un homme. De l'apôtre en particulier, qui lui a été enfoncé dans les eaux marécageuses. Et puis, il en est sorti de ce marécage. Alors il dit aux autres, mais voyons, chers frères et sœurs qui êtes à Rome, voilà comment on sort du marécage. C'est-à-dire qu'il emploie ce « je » constamment pour parler de la condition individuelle de l'âme du chrétien devant Dieu, puis le « nous » quand il s'agit de la position collective des chrétiens. C'est très important, ce « je », ce « moi » et ce « nous » dans ce paragraphe. Alors, l'apôtre Paul a traversé cette crise. Il en a beaucoup souffert. Et après avoir traversé cette terrible crise, une fois qu'il est de l'autre côté du marécage, il se tourne vers les chrétiens angoissés et il leur dit « chers frères et sœurs, vous allez traverser le marécage. N'ayez pas peur, Christ vous permettra d'en sortir. » Mais voilà ce qu'il faut faire comme expérience d'abord. Les accents de ce dernier paragraphe sont d'une telle sincérité dans la bouche de l'apôtre et sous sa plume qu'on est saisi par la profonde vérité du cri qui s'échappe de cet homme. Quand, découvrant son impuissance à faire le bien, il pousse ce cri déchirant du verset 25e, « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et entre l'interrogation et la réponse, il s'écoule un temps plus ou moins long. Mais avant d'examiner ce verset, permettez-moi de préciser plus clairement l'état de l'âme qui est présenté dans ce paragraphe. Il s'agit d'un croyant. Nous l'avons dit. Ce croyant qui sait que ses péchés sont pardonnés, voudrait faire le bien. Il sait ce qui est bien. C'est ça qui est important. Sa conscience est éclairée. Il sait ce qui est bien et il sait ce qui est mal. Sa volonté également est éclairée parce qu'il veut faire le bien et il veut ne pas faire le mal. Donc, il s'agit d'un croyant dont la conscience et la volonté ont été éclairées. Non seulement il sait ce qui est bien et ce qui est mal, mais encore, il voudrait faire ce qui est bien et voudrait éviter ce qui est mal. Or, qu'est-ce qui se passe? Il fait ce qui est mal et il ne pratique pas ce qui est bien. Mais ce chrétien fait une autre découverte, une découverte très importante. Au moment où il voudrait faire le bien, puis il voit qu'il fait le mal, alors qu'il voudrait faire le bien, il dit, ce n'est plus moi qui fais le mal, mais c'est le péché qui habite en moi. Alors cela est une distinction très importante. La source du mal n'est pas dans l'esprit et dans la volonté renouvelée de ce chrétien. La source du mal, c'est le péché qui habite en lui. Et on découvre ainsi, par l'expérience douloureuse et déchirante, que nous ne pouvons pas pratiquer le bien, qu'il y a en nous, indépendamment de nous, pour ainsi dire, la puissance du péché qui opère. Mais c'est une situation angoissante. On sait ce qui est bien et mal, on veut faire le bien, on veut éviter le mal. On pratique le mal, on ne fait pas le bien, et on sait qu'il y a la puissance du péché en nous. Alors, c'est au moment de l'impasse, parce que maintenant nous en sommes au plus profond de la crise. C'est à ce moment de l'impasse et de l'angoisse profonde du chrétien que le cri retentit. Paul ne dit plus, misérable homme que je suis, que dois-je faire pour être libéré? Il sent qu'il ne peut plus vivre. Alors il dit, misérable homme que je suis, qui, mais quelqu'un d'extérieur à moi, me délivrera de ce corps de mort? Permettez-moi de raconter un récit qui éclaire cette situation. Vous avez un enfant qui se trouve dans un endroit marécageux. Son père est à quelque distance sur la rive. Et cet enfant sent qu'il enfonce toujours plus. Et il crie, « Papa, je dois sortir d'ici !» Puis son père lui dit, « Oui, il faut sortir d'ici. » Puis l'enfant fait un effort pour se sortir de cet endroit marécageux. Il crie de nouveau à son père, « Papa, il faut que je sorte d'ici !» Puis son père lui répond, « Mais c'est évident que tu dois sortir d'ici !» Alors, dans un dernier cri de désespoir, parce que le père a laissé l'enfant faire l'expérience, dans un dernier cri de désespoir, l'enfant dit, « Papa, sors-moi d'ici !» Et alors le père dit, « J'attendais ce cri. » Je vais te sortir de ta situation. Chers frères et sœurs, avons-nous poussé ces cris de détresse vers le Seigneur? Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Parce que pour pousser ces cris, il faut avoir fait l'expérience de ce qu'on est et de ce qu'on vaut. Combien ont poussé ce cri dans cette salle? Certainement que nous n'avons pas été travaillés comme les chrétiens du réveil. Quand on pense à ces chrétiens, je parle de la période de 1830 à 1840, et même avant, déjà depuis 1820, quand on pense que des chrétiens ont connu pendant 7 ans cette expérience du chapitre 7 de l'Épître aux Romains. et qu'ils ont poussé ce cri plusieurs fois pendant cette année, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la libération. Mais évidemment, c'était des chrétiens sérieux et conséquents, qui savaient ce qu'était le mal aux yeux de Dieu, et qui n'appelaient pas le mal bien et le bien mal comme on le fait aujourd'hui. Et quand ils ont eu poussé ce cri de détresse, « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Ils ont pu, après l'expérience vécue et profondément ressentie, rendre grâce à Dieu. On m'a posé la question une fois, entre l'interrogation « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» et « Je rends grâce à Dieu, combien se passe-t-il de temps ?» Eh bien, il peut se passer plus ou moins de temps. Cela dépend des cas. On a vu des chrétiens faire de très grands progrès, rapidement, et relativement rapidement, parce qu'ils avaient eu une préparation préalable, arriver à pousser ce cri de détresse et pouvoir rendre grâce parce qu'ils avaient été délivrés. Mais on a vu des chrétiens où la durée de l'expérience a été beaucoup plus longue. Mais pour terminer, j'aimerais relever le dernier verset de ce chapitre qui est étrange. Il semble que l'apôtre soit délivré à tout jamais de cette puissance du péché. Mais voilà qu'au verset 25, il dit « Ainsi donc, moi-même, de l'entendement, je sers la loi de Dieu, mais de la chair, la loi du péché. » Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi revient-il sur la question? Parce que, chers frères et sœurs, pour le chrétien le plus conséquent, la question peut être réglée dans son expérience et dans sa connaissance, mais il arrive toujours des moments où l'expérience de son impuissance se renouvelle. Et combien de fois on a vu des serviteurs de Dieu qui ont appris très tard ce que d'autres ont appris plus tôt. Ce qui me frappe dans les voies de Dieu quand on voit des âmes nombreuses, c'est la diversité d'opérations dans chacun. Il y a des âmes qui ont besoin de faire les expériences les plus dures au soir de la vie, et tard. Et cela est mystérieux. Cela est mystérieux, mais cela est juste, souvent. Parce que quand on a passé tout son temps à professer le christianisme et à servir la terre, il est normal que l'on se réserve pour le soir de la vie les plus dures expériences pour apprendre à se connaître. Si l'on s'est donné très tôt, comme enfant et comme jeune homme au Seigneur, et qu'on s'est intéressé aux choses de Dieu, Dieu tient compte de cela. Et il nous fait faire l'expérience plus tôt. C'est pour cela que nous serions assez engagés, ces jeunes gens et ces enfants qui sont là, à suivre le Seigneur depuis leur jeune âge. Depuis leur jeune âge. Il est dit de Timothée, qui est un frère qui avait compris l'affranchissement, « Tu connais les saintes lettres depuis ton enfance. » Mais ce dernier verset du chapitre 7 est solennel, parce que même après la délivrance éprouvée et la puissance communiquée par Dieu pour marcher à sa gloire, il y a toujours le problème jusqu'au bout. Et l'on a vu des frères qui avaient honoré le Seigneur d'une façon remarquable tomber gravement vers la fin de leur carrière. Dans la parole, déjà. Pensons à Salomon. Il avait besoin d'apprendre ce qui était dans son cœur. Il avait besoin d'apprendre ce qu'il était. Et dans cet apprentissage de ce que nous sommes, on arrive à plus de grâce. Je lisais l'autre jour, et c'est par là que je terminerai cette étude en tout rapide du chapitre 7, une lettre d'un serviteur de Dieu qui disait ceci. Je pense qu'il est normal que plus on vit près du Seigneur, plus on éprouvera de l'isolement. Plus le Seigneur s'est approché de la croix, plus il a été seul. Plus l'apôtre Paul s'est approché du supplice final, plus il a été seul. Plus Moïse a conduit ce peuple avec dévouement, plus il s'est senti seul pour mourir tout seul sur le Pisga. L'épreuve finale des grands serviteurs de Dieu, ça a été l'épreuve de la solitude. Élie est monté en Horeb, amer et découragé. Il a fait l'épreuve de la solitude. Mais, quand le chrétien est dans un bon état, le serviteur a marché près du Seigneur et a éprouvé cette solitude, il y a un autre phénomène. Et c'est celui-là sur lequel j'aimerais insister. C'est qu'il a plus de grâce. Il a plus de grâce. Et je pense que c'est la caractéristique des frères âgés et pieux, c'est que, ayant le sentiment de ce qu'est le mal aux yeux de Dieu, ils sont séparés pour eux-mêmes, pour Dieu, mais ils éprouvent des sentiments de grâce à l'écart de celui qui est en chute. La solitude et un esprit de grâce semblent caractériser les derniers pas des grands serviteurs de Dieu.